Avez-vous des gens qui sont venus à votre maison, des gens, vous voulez faire une bonne impression, ils viennent visiter, il y a une pièce là-bas derrière, avec des choses dans cette pièce, vous voulez pas que les gens voient, tu fermes la porte dans cette pièce là-bas, il y a des choses, les visiteurs viennent, il y en a un bon temps. Ils n'ont aucune idée. Ils n'ont aucune idée ce qu'il y a sous la moquette, ce qu'il y a dans la pièce là-bas derrière. C'est ce que je veux parler de ça aujourd'hui. Je veux parler
de
trouver
Dieu,
d'être réel avec Dieu. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que vous êtes ici parce que vous voulez vous exposer vous-même à la parole de Dieu et la possibilité que Dieu va vous parler. Et vous allez ouvrir votre être intérieur, vous allez dire, vas-y, Jésus, parle-moi. Jésus dit, oh, belle maison. Jésus dit, je vais aller dans la pièce là-bas derrière. Et tu lui dis, toi, non, ça va, tout est bon, non. Non, on est bon, ça va, je suis OK. Ça va. Vraiment, c'est sûr, je dois aller dans cette pièce là-bas derrière, je vais te parler. On va des affaires à faire, on doit. Je suis Dieu. On va être sérieux. Je suis Dieu. Je dois aller là-bas derrière. Non, tu vas. Non, on ne va pas là-bas derrière. C'est fermé. Ça, ce sont les gens. C'est comme ça que nous sommes, nous. Les gens. On cache. On se renie. On se cache. On résiste, on ment, on fait toutes sortes de choses. Et je veux dire plusieurs choses à propos de cela aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va être un bon matin ou pas, je me demande. Attends, écoute. Seigneur, tu peux me parler, mais n'utilise pas l'X-ray, la radiographie. Parle-moi, mais tu dois garder tout ça d'un certain niveau. Mais un bon docteur va dire, on doit parler. On doit faire quelque chose pour toi. Parce que je t'aime. Je ne suis pas comme les autres. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit, il est le seul Dieu sage. Et à propos des autres dieux, non. Qu'est-ce que serait un adjectif pour les autres dieux? Quelqu'un a dit stupide. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas ce qu'il faut. Ils ne peuvent pas aller là-bas, derrière. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas ce qu'il faut. Il est le seul Dieu sage. Il est sage, mais il est très effectif. Il est efficace aussi. Il nous aime. Tu sais, lorsque ça se passe dans notre cœur, Dieu parle à nos cœurs, ça devient comme une façon de vivre pour nous. Ça change notre vie. Et s'il y a quoi que ce soit qu'on en a besoin dans ce monde, c'est pour que les gens soient changés en le connaissant, en l'adorant et en entendant sa voix. Ce qu'il nous dit en l'écoutant. Il y a plusieurs années, des fermiers de Californie été menacés par un désastre. Il y avait un problème, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a menti, qui disait qu'il n'avait pas de nourriture lorsqu'ils ont traversé la frontière. Est-ce que vous avez des produits agricoles? Non. On a eu un problème avec ça. On était en Bulgarie. Il y avait des bananes. Et les gardiens à la douane. On était dans un bus. Je vais corriger ça. Quelqu'un m'a dit cette histoire. Je n'étais pas dans le bus, mais cette histoire des bananes, ce n'est pas mon histoire, mais quelqu'un me l'a raconté. Le bus s'est arrêté. C'était Bulgarie et la Turquie à la frontière. Ils ont trouvé les bananes cachées dans le bus. Qui a caché ces bananes dessous le bus là, avec les bagages? Ils ont sorti les bananes. Les douaniers, ils ont commencé à écraser les bananes. Ils ont sauté sur les bananes. Ils étaient furieux. Ils étaient en colère. Ils les ont écrasés. Ils ont sauté sur les bananes. Priez pour moi que ce message va. J'ai besoin d'aide aujourd'hui. D'autres fois, je peux faire ça de moi-même, mais aujourd'hui, j'ai besoin que Dieu le fasse. Non, je blague. On a besoin de Dieu. Il y a des insectes qui se sont multipliés. On a essayé de sauver les récoltes agricoles de la Californie, mais il y avait des insectes qui ont ravagé les récoltes. Les insectes qui ont mis des œufs dans les fruits et les fleurs. Donc, il y a les insectes, ils ont semé à l'intérieur et c'est une question de temps. Le péché, c'est comme ça. C'est un temps et une opportunité pour que le péché sème et on le récolte et sorte. Chacun d'entre nous, on a le potentiel d'être criminel, de trouver d'avoir des problèmes. Tous d'entre nous, on a la possibilité de blesser les autres personnes, de faire un désastre de notre vie, parce que c'est à l'intérieur de nous, la vieille nature pécheresse. On ne peut pas contrôler cette nature pécheresse. Si on est laissé à nous-mêmes, on a besoin de Dieu. C'est pour ça que Christ est venu, pour traiter avec les choses profondes, les grands problèmes, les choses réelles qui sont à l'intérieur de notre cœur. Marc 7, 21 à 23, Jésus décrit ce qu'il y a dans notre cœur. Marc chapitre 7, 21 à 23. On a plusieurs points aujourd'hui. Le premier point est très simple. La nature pécheresse de l'homme. J'ai parlé à mon fils hier, Justin, et il m'a dit ceci. Papa, pourquoi est-ce que tu penses que les gens adorent les insectes et les choses rampantes? Pourquoi est-ce qu'ils adorent ça? Tu peux dire, moi je ne fais pas ça. Tournez avec moi dans Romains. Chapitre 1. La vérité à propos de Dieu est oppressée dans le cœur de quelqu'un qui n'est pas sauvé. Dieu est partout dans l'univers. Il parle aux non-sauvés, à ceux qui sont sauvés aussi, bien sûr, mais les non-sauvés. Le témoignage de Dieu dans l'univers, la nature de l'univers est telle que ça parle à nos cœurs, que Dieu existe. Ça nous parle. Je ne peux pas le voir. Je ne peux pas le connaître. Mais il y a quelque chose qui me parle de la nature de l'univers, l'ordre de l'univers. Ce n'est pas possible que ce soit un accident. Il doit y avoir une intelligence dans le ADN. Il doit y avoir l'intelligence dans le cosmos, l'ordre des choses, les messages incroyables qui sont dans l'univers, qui nous parlent à propos de Dieu. C'est Romains, chapitre 1, versets 18, et 19 et 20. C'est clairement vu depuis la création du monde. Ces attributs invisibles sont vus clairement au verset 20. La question qui vient à notre pensée, c'est non pas quoi, mais pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans le monde de la science. Pourquoi ça s'est passé? C'est dans le monde de la philosophie, ça. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi j'ai des yeux et des oreilles et une langue, un cerveau et des pieds? Et pourquoi j'ai un pouce et des doigts? Pourquoi est-ce que nous sommes de cette façon-là? Pourquoi est-ce qu'on existe? OK.
Because of that,
mais à cause de ça, cette infection à l'intérieur de nous, profonde, il y a le mensonge dans le cœur. Le péché est réel. Mais l'effet du péché, c'est je suis un menteur. Je me cache de Dieu. Je vois Dieu. Mais je ne veux pas la loi morale qui est plus haute que moi. Je ne veux pas qu'elle me dise ce qui est correct et ce qui est faux. Si je renie Dieu, le Dieu tout-puissant, le Créateur, peut-être je peux trouver d'autres dieux. D'autres dieux. C'est ce qu'il est écrit. Verset 21, bien qu'ils connaissaient Dieu, ils ne l'ont pas glorifié. Qu'ils connurent Dieu, ils ne l'ont pas. Lorsque tu es un athée, tu dois, pour le provoquer à penser, tu dis, tu ne crois pas en Dieu, je suis désolé. Pourquoi est-ce que tu es désolé? Parce que la nuit, lorsque tu vas au lit la nuit, tu n'as personne à qui tu peux remercier. Lorsque tu parles avec un athée comme ça, tu provoques sa pensée. Comment est-ce que tu peux être reconnaissant pour l'univers, pour ton lit, ta famille? Il n'y a personne avec qui tu peux remercier, être reconnaissant? C'est tout. Au verset 21, il est écrit, ils ne l'ont pas glorifié, ils n'étaient pas reconnaissants non plus, mais ils devinrent futiles. Futiles, ça signifie qu'il n'y a aucune valeur dans ma pensée, dans mes pensées. Aucune valeur. Ma pensée, c'est comme une loupe. Ça tourne en rond. Nos pensées tournent en cercle. Il n'y a aucune valeur. Il n'y a aucune valeur éternelle. Valeur d'amour dans mes pensées, c'est moi. C'est moi. Ces pensées sont de moi, au travers de moi, et pour moi, envers moi. Mon monde est petit parce que je n'ai pas Dieu. Sans Dieu, qu'est-ce que j'ai? J'ai moi. J'ai moi. J'ai le monde autour de moi. Comme je vois le monde autour de moi. C'est très petit en fait. J'ai cette chose-là lorsque je veux adorer. Qu'est-ce que je peux adorer qui ne sera pas moral? Qu'est-ce que je peux adorer dans le monde ici qui n'est pas moral? C'est-à-dire, ça ne me fera pas me sentir, je ne me sentirai pas mal. Les animaux, j'ai une idée, les animaux, ils ne sont pas moraux. Ils n'ont pas de moralité. Et moi, je te dis, tu as tort. Oh, ils essaient que de manger, ils essaient que uniquement de manger. Ils veulent uniquement manger les insectes. Les insectes ne vont pas te dire tu as tort. Mais tu peux adorer un insecte ou un animal. Tu peux les adorer. Mais ils ne te diront pas que tu as tort. Leurs pensées et la folie de leur cœur étaient noircies et ils sont devenus fous dans les ténèbres. Peut-être. Ils sont devenus experts dans la philosophie, ils sont devenus experts dans le business, experts dans l'économie, experts dans la société, le haut niveau de l'expertise, un haut bien élevé. Et Dieu dit, par rapport à ces gens qui professent d'être sages, ou d'une autre façon de dire, ils sont les dirigeants de notre société. Peut-être ils sont sages, mais ils sont devenus fous. Quel paradoxe. Les experts, ceux qui sont experts, ils sont devenus dangereux parce qu'ils sont, qualifiés professionnellement, mais dans sa pensée, à ces gens-là, il y a quelque chose de vide et de futile et de ténébreux. Et c'est ce qu'il est dit ici. Le verset suivant, il est écrit, c'est là où je veux aller maintenant. Tu peux dire non, pasteur, Je ne fais pas cela. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en une image. J'ai une image. C'est quoi une image? C'est quelque chose qui est fixe. Fixe, une statue fixe. C'est une image. C'est quelque chose de joli que je peux adorer, mais ça ne va jamais me reparler, me parler. C'est une image corruptible. De quoi? Image corruptible. Ça pourrait être un homme, l'image. Ça pourrait être des oiseaux, des bêtes à quatre pattes, ou des choses qui rampent. Certains d'entre vous, peut-être vous n'avez jamais voyagé dans des pays où il y a ce genre d'idolâtrie, mais moi je l'ai vu souvent dans différents endroits, souvent je le vois dans notre pays ici, mais d'une autre façon, mais c'est la même chose. On ne dit pas que l'on adore une bête à quatre pattes ou un insecte qui rampe, mais dans le principe, c'est ce que l'on fait. Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne te parle pas. Ça ne te parle pas. Tu prétends que tu honores cette chose-là, mais en fait, tu contrôles. Tu peux l'ignorer. Tu peux t'éloigner de là. Tu peux l'écraser avec ton pied. Tu peux te débarrasser de ce Dieu. Tu es en contrôle, toi. Tu contrôles ça. Le grand changement qui se passe envers nous, c'est que tu deviens soumis, sujet à Dieu qui est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Il nous parle et il nous dit que nous avons tort. Pour utiliser un exemple, Jésus vient dans la maison et il dit, j'ai ma pièce là-bas derrière remplie d'ordures, de poubelles, de choses. Je suis là, moi je suis présent, je dois aller voir cette pièce là-bas derrière. Non, non, non. Laisse-moi te montrer la porte. Je vais avoir un autre Dieu, moi. Il ne fera jamais ça. Il ne va jamais.
Il ne peut même pas me parler.
Je vais là-bas à l'extérieur, l'adorer, dans mon jardin, là-bas derrière, et je vais revenir dans ma maison avec ma vie. C'est comme ça que les gens vivent, n'est-ce pas? Allons voir les deux points suivants du message dans Amos. Ça, c'est un verset clé du message. Par rapport à Dieu qui nous parle. C'est la chose la plus incroyable qui peut se passer dans ta vie. Le Dieu vivant qui te parle. Verset 14, Amos. Celui qui forme les montagnes. Il a créé le vent. Il déclare à l'homme qu'est-ce que ses pensées sont. Non, ce que sa pensée à lui, Dieu, est. Il déclare à l'homme sa pensée. Le Dieu Tout-Puissant, il est sur les hautes montagnes de la terre. On est Amos 4, chapitre 4, verset 13. Le verset va être sur l'écran. Voilà, nous avons ça. La dernière partie. Il a déclaré aux hommes quoi? Ce que est sa pensée. Est-ce qu'il te déclare à toi ses pensées? Wow! Ça, c'est la nouvelle pensée. C'est le renouvellement de la pensée. Romains chapitre 12, versets 2 et 3. Nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, 16. On est capable de méditer sur la parole de Dieu. Et Dieu nous communique sa pensée. Sa pensée n'est pas péché. Sa pensée, c'est Christ. Sa pensée, c'est la clé pour ta vie.
Et
lorsqu'il vient dans la maison
et
il veut nettoyer ta maison, comme on a vu avec l'histoire de Caïn, Caïn a fait une offrande. Le Seigneur a dit à Caïn, chapitre 4, de Genèse. Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi est-ce que ta contenance est misérable? J'ai trouvé ces mots. Dieu nous aime. C'était des mots d'amour qui nous parlent. Il parle aux Juifs. On étudie les prophètes, on enseigne la Bible. Je suis touché profondément. Combien il aime le peuple juif. Ce qu'il fait pour eux. Il revient. Il y a un prophète. Il y a les faux prophètes. Et il revient encore. Et encore. Ces prophètes-là ne sont pas des prophètes professionnels. Ce sont des prophètes, des gens qui sont remplis de l'esprit, ouins, et ils avaient un message. Lorsqu'ils ont dit quelque chose, ce n'était pas juste des balbutiements ou des paroles vides. Il y a certains prophètes, leurs paroles à eux, c'est vide. Mais les paroles de ces prophètes-là de Dieu, dans Jérémie, il est dit que leurs paroles, c'était comme un marteau. Un marteau, ça pénètre. C'est vrai, c'est véritable. Il vient dans la maison, il dit, je dois aller voir la pièce là-bas derrière. Et il dit, oh, ce n'est pas très poli. Il dit, je ne suis pas là pour être poli. Je suis Dieu, je vais t'aider. Je vais changer ta vie. Je vais te parler. Tu as un problème avec l'orgueil? Dieu peut dire à quiconque d'entre nous, tu as un problème avec la convoitise. J'ai entendu parler récemment un psychiatre qui a conseillé quelqu'un depuis 40 ans. J'ai entendu les gens qui disent je suis anxieux, je suis orgueilleux, je suis déprimé. Pendant 40 ans, il a conseillé ce psychiatre. Je suis égoïste. Je n'ai jamais entendu un de mes clients me dire je convoite. Je me demande pourquoi. Peut-être parce que dans notre pays, c'est accepté de convoiter tout ce que tu veux, autant que ce que tu veux, dans tes termes à toi. Mais lorsque Jésus vient dans la maison de notre vie, il nous dit, tu as la convoitise là. C'est ça qui est un problème. Tu as la convoitise de l'argent et tu es égoïste aussi. Je vais te déclarer mes pensées. Ça, c'est beau, là. Allons voir la dernière partie. Le point numéro 3. Genèse, chapitre 4. Abel a amené les premiers fruits de son troupeau. Le Seigneur a accepté l'offrande d'Abel. C'est quoi la signification de là? Abel a offert un animal avec du sang, une offrande de sang, et c'était respecté. Ça a marché. Ça m'a affecté. J'ai offert une offrande et c'était accepté. Dieu a dit Amen à cette offrande et ça a marché dans la vie d'Abel. Je suis libre. Je suis un adorateur de Dieu. J'offre cette offrande, était de Dieu, à Dieu, et c'était pour moi d'être sauvé et d'avoir une vie changée. Et Dieu qui est venu dans ma vie, ça s'est passé. Quelle offrande? L'offrande de Jésus-Christ, lui-même, le sang, le sacrifice qui marche, qui travaille en vous avec une conscience propre. Hébreux chapitre 9, verset 14, le Saint-Esprit qui vous remplit. Vous connaissez la vérité vous libère. Vous êtes un adorateur de Dieu. Dieu vous aime tout d'abord. Et nous aimons Dieu et on a communion avec lui. On est différent. Notre visage est différent. Notre cœur est différent. Nos motifs sont différents. On a trouvé Dieu. Dieu nous a trouvés. Et ça a marché. Ça marche. Ça, c'est l'évangile. C'est puissant. Si tu es en Égypte, au Kazakhstan, ou en Burma, dans les Philippines, au Japon, ou à Moscou, ou en Argentine, ou au Mexique, peu importe là où tu es, ça n'a aucune importance. À n'importe quel moment, le Dieu vivant frappe à la porte, façon de parler. Et il dit, accepte-moi, crois en moi. Mais c'est pas beaucoup de gens qui font cela. Je sais pas les nombres, les chiffres. La religion la plus grande grandit le plus vite dans le monde. Ça grandit 4 fois plus vite que l'islam. C'est la religion dans le monde actuellement qui grandit le plus vite. Ça se grandit 4 fois que l'évangile, par la prédication de l'évangile. 4 fois plus que l'islam. On fait tous partie, nous en Amérique, bien sûr. Et Dieu sait comment nos gens ont besoin. Christ qui vient dans ma vie, je dois vérifier la pièce là-bas derrière. Je sais ce qu'il y a là-bas. Je dois y aller là-bas. Il doit y avoir le pardon, ça doit être la nouvelle naissance, l'humilité, la communion avec Dieu, c'est ce qu'on en a besoin. Communion avec Dieu. Et ici, le Dieu vivant me parle, même lorsque je n'aime pas ça, même si ce n'est pas ma préférence. Mais il y a quelque chose que je vais m'exposer parce que je veux le Dieu vivant dans ma vie. Caïn n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Je lis l'histoire, c'est comme un exemple. Chapitre 4 de Genèse, verset 5. Mais il n'a pas respecté Caïn et son offrande. Pourquoi pas? C'était des légumes, c'était des produits agricoles, ces choses. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sacrifice sanguin. Uniquement par le sang, nos péchés sont pardonnés. Dans Hébreux chapitre 9, par le sang, nous sommes justifiés. Ça, c'est l'ordre de Dieu, ordonné par Dieu. Et ça marche, c'est réel. Le sang précieux de Jésus qui sauve une personne. Je me rappelle, j'étais à Budapest il y a des années, dans les rues, à Budapest, un Allemand, un homme, il était touriste. Il était anxieux, je parlais de lui dans la rue. On rencontrait les gens dans la rue, je ne les connaissais pas. Il a dit, pourquoi est-ce que tu me parles à moi? D'où es-tu? De la Hollande. Je te parle parce que je veux te donner une bonne nouvelle, que Jésus t'aime. Il a dit, je sors de prison. J'étais en prison en Hollande. Et il a dit, pourquoi étais-tu en prison? J'ai tué un homme. Est-ce que tu veux en parler? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans un bar à l'extérieur. Quelqu'un qui est sorti du bar, on a commencé à se battre avec moi. Lui et moi, il a sorti un couteau. On s'est battu et je l'ai tué avec son propre couteau. J'étais en prison pendant 3 ans. 3 ans? Je vois son sang sur mes mains chaque jour, ce gars que j'ai tué, meurtri. Il était embêté par tout ça là. Chaque jour, il voit son sang. J'essayais de le réconforter en disant, Dieu est plus grand que ça. Dieu est un Dieu vivant. Dieu est un Dieu qui pardonne. Je lui ai dit, et en passant par là, tu sais ce qui s'est passé, quelqu'un dans la Bible? Moïse, dans Exode chapitre 2, je ne savais pas cela. J'ai dit, ça s'est passé à un deuxième homme dans la Bible qui a écrit la Bible, David. Il a tué un de ses meilleurs amis. Il y en a un troisième, l'apôtre Paul. Il a tué, meurtri des chrétiens. Il a écrit un quart du Nouveau Testament. Le sang qui est sur tes mains n'est pas plus grand que le sang de Jésus-Christ qui était répandu et qui enlève les péchés et qui te pardonne. C'est quoi le problème avec les pécheurs? L'œuf et l'insecte qui est à l'intérieur du fruit, ça doit être traité avec ça. L'insecte qui va infecter le fruit et les fleurs de l'arbre fruitier, ça doit être traité par Dieu. Si je me tourne vers d'autres insectes qui ne peuvent pas me parler, ça sert à quoi? C'est quoi le bien qu'ils pensent? Ils ne peuvent pas me parler, ils ne peuvent pas me défier. Ce n'est pas à propos de Dieu. Il y a des gens qui aiment leurs chiens, leurs animaux. C'est OK, ça va. C'est pas de ça que je parle. Mais si ton chien devient ton Dieu, tu n'as pas vraiment un Dieu. Tu n'as pas de futur. Tu n'as pas quelqu'un qui peut envahir ta vie. Tu n'as pas quelqu'un qui peut te défier. Quelqu'un qui va te dire, je veux voir la pièce là-bas derrière. Si tu me laisses pas aller voir, contrôler la pièce là-bas derrière, tu ne me fais pas confiance, je n'ai rien à voir avec toi. Lisez à propos de Caïn. Dieu, il n'a pas respecté Caïn et son offrande non plus. Et Caïn s'est mis en colère. C'est fini pour Caïn. OK, Dieu n'a rien à voir avec Caïn. Non. Dieu, il est après Caïn. Il va aller. Il va le suivre. Il va aller le chercher, Caïn. J'aime cette histoire. Pensez à ça. Un criminel dans la communauté. Dieu le cherche. Il veut lui parler. Tu sais ce qu'il va lui dire? Est-ce que ça va? Tu es un criminel, est-ce que ça va avec toi? Tu blesses les gens? Est-ce que tu es déprimé? Caïn, ta religion, ça marche pas pour toi, Caïn. Pourquoi est-ce que tu es en colère? Regarde au verset 6. Pourquoi est-ce que tu es en colère? N'est-ce pas bon? Pourquoi es-tu en colère? C'est d'une autre façon, on peut dire. Comment est-ce que ça va? Comment est-ce que ça marche pour toi, là? Comment est-ce que ça va? Est-ce que ça marche pour toi? Est-ce que tu es heureux? Es-tu satisfait? Comment ça fonctionne pour toi, là? C'est plat, il n'y a rien. Ça va pas. J'ai quelque chose qui se passe dans mon cœur. Dieu, en fait, si je suis vraiment honnête avec toi, je suis en colère avec toi. Je suis en colère avec mon frère Abel parce qu'il est tellement heureux. Il y a quelque chose à propos de mon frère, je ne sais pas ce que c'est. Mais mon frère là-bas, j'ai un problème avec lui. J'ai un problème avec lui et j'ai un problème avec toi, Dieu. J'ai un problème avec les autres et j'ai un problème avec moi-même. Donc, Dieu, voilà, débrouille-toi avec ça. Débrouille-toi avec ça, Dieu. Ça pourrait être l'attitude du pécheur, n'est-ce pas? Vous, votre attitude ici, et mon attitude. Mais j'aime ça, parce que le Seigneur dit, Caïn, je te comprends tout, je sais pourquoi tu es en colère, ta contenance de ton visage, tu es déprimé. Si tu vas chercher un médicament qui va te rendre heureux pour affecter tes émotions, une drogue là, ce que tu as besoin, c'est moi. Je suis celui qui va aller dans la pièce là-bas derrière. Je vais nettoyer ta maison. Tu ne vas même pas réaliser ce qui s'est passé dans ta maison qui s'appelle ton âme. Je vais te donner mes pensées. Je vais t'établir sur les hauts lieux, sur les hauts lieux, sur les mers hautes. Je vais te donner une pensée renouvelée. Je vais t'instruire comment tu dois marcher. Ta vie va vraiment commencer. Je suis ton Dieu. Il n'y a personne d'autre comme moi. Je suis ton Dieu. Tu vas bénéficier. Tu vas être béni. Psaume 34. Jean chapitre 10. Je suis le bon berger. Je suis venu pour vous donner quoi? La vie abondante. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vous dis, moi, c'est ce qui s'est passé envers nous. Et je vais terminer. J'étais en Floride, dans la ville de Tampa Bay. On avait une conférence. Les anciens qui sont venus de Fort Myers, de Miami, des nouveaux croyants, des anciens croyants, des ministres. J'ai rencontré un frère que j'avais connu depuis des années. Je ne l'ai pas vu depuis 16 ans. On a eu un bon temps. C'est ce que j'ai vu dans ces réunions. J'ai vu que Dieu est notre Dieu. Dieu prend soin de nous. J'ai eu un coup de téléphone. Il est dans l'assemblée, là. Je viens de te voir. Lui et moi, on est allés au collège dans les années 70. On est devenus amis. Il est devenu un croyant. Sa famille est dans l'église. Tu te rappelles? Un gars qui s'appelait Mike Siminoff. Il m'a téléphoné. Il a été sauvé à la même temps qu'on a été sauvé nous, il y a longtemps. Il était au Colorado. Il a dit, je t'ai trouvé sur l'Internet, je voulais t'appeler. On a parlé, c'est ce que j'ai entendu? Dieu est son Dieu. On n'a pas parlé depuis 50 ans. Et on est en train de parler comme des adolescents. Et Dieu a béni cet homme. Et Dieu nous a bénis. Et qu'est-ce que ça signifie? Je vous dis, ce pays a besoin d'aide ici. Mais ce n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas à l'extérieur. On connaît tout à propos de l'extérieur. On sait tout ça. Je me tiens à la porte de ta vie et je frappe à la porte. Si tu entends ma voix, si tu n'as pas peur de moi, si tu peux me faire confiance, laisse-moi rentrer. On va manger ensemble et lorsque je viens chez toi, la maison va être nettoyée, propre. Je vais traiter avec ça. Je suis Dieu. Et moi, je ne m'amuse pas aux alentours avec les choses de la culture. On est en train de couler dans les choses de notre culture. Il n'y a aucune valeur. Beaucoup de faux prophètes, des prétentions fausses. Nos prophètes, qui prophétisent professionnels, des conseillers, des prêtres, des psychiatriques, des psychiatres, des psychologues, des docteurs, des éducateurs, des chefs d'entreprise, des CEO, tout. Ils ont trouvé la réponse pour la race humaine. La réponse est non. Ils adorent les insectes parce qu'ils ne nous parlent pas. Ils ne nous répondent pas, les insectes. Mais le prédicateur dit, Christ est la réponse. Lorsque tu le trouves, il vient dans ta vie et tu commences à entendre de lui, il te parle. Ça devient une habitude. Et ce n'est pas juste deviner.
Et Judas went out and hanged himself.
Donc ce n'est pas de deviner, de t'ouvrir la Bible par hasard, tu mets ton doigt et ça te parle. Non, c'est plus profond que ça. C'est la pensée, la doctrine, l'étude, l'adoration, la relation, la foi et l'obéissance. Tu ne vas pas le regretter. Quiconque croit ne sera pas honteux. Celui qui croit, il n'est pas honteux. Romains 10, verset 13. Un jour, on sera embarrassé, on a honte, on dit toutes sortes de choses. Celui qui croit, notre Seigneur Dieu est un Dieu présent tout le temps pour nous aider lorsqu'on en a besoin. Il est l'ancre de notre âme. Et le Christ, et vous ici, vous êtes ceux qui le souhaitez la bienvenue chez vous. et vous dites, oui, Seigneur, je confesse et je l'amène à toi. Je me confesse et je t'amène tout ça devant toi.